Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 3. Le déjeuner. En conversant ainsi, Durward et sa nouvelle connaissance arrivèrent en face du château de Plessis-les-Tours. En ces temps d'alarme, les grands étaient obligés de demeurer dans des forteresses. Entre toutes ces forteresses, le château de Plessis-les-Tours se distinguait par le soin extrême et jaloux avec lequel il était gardé et défendu. À partir de la lisière du bois où le jeune Durward avait fait halte avec son compagnon, s'étendait, ou plutôt s'élevait en pente douce, une esplanade découverte, où il n'y avait ni buisson ni arbre, sauf un vieux chêne gigantesque à moitié desséché. Cet espace avait été laissé ouvert, en vertu des règles de fortification de tous les temps, pour que l'ennemi ne pût s'approcher à couvert et sans être aperçu du haut des créneaux. Il y avait trois enceintes, avec créneaux, tourelles de distance en distance et aux angles. La seconde enceinte s'élevait plus haut que la première, et la troisième plus haute que la seconde, de façon à mettre toujours l'ennemi sous le feu des assiégés, à supposer qu'il eût pris la première et la seconde enceinte. Chaque enceinte était protégée par un fossé large et profond. Le château proprement dit s'élevait dans la troisième enceinte, plus semblable à une prison qu'à un château. Il se composait de constructions appartenant à des époques différentes, groupées autour de la plus ancienne de toutes, la tour du donjon, qui s'élevait sombre et menaçante, n'ayant pas d'autres fenêtres que des meurtrières, irrégulièrement disposées en vue de la défense. Quentin Durward avoua à son compagnon que l'art de la défense ne pouvait aller plus loin, surtout en pays plat, dans un endroit où la nature du terrain s'y prêtait si peu. Dites-moi, jeune homme, reprit le marchand, avez-vous jamais vu semblable forteresse, et connaissez-vous des hommes assez hardis pour la prendre d'assaut? Le jeune homme jeta encore un long regard sur la place, dont la vue l'intéressait au point de lui faire oublier que ses vêtements étaient humides. Ses yeux brillèrent, et rougissant comme un homme brave qui médite une action d'éclat, il répondit. C'est un château très fort et très bien défendu, mais rien n'est impossible à des hommes de cœur. Et les hommes capables d'accomplir un pareil exploit, y en a-t-il beaucoup dans votre pays? Riposta l'autre, non sans quelque dédain. Je ne l'affirmerai pas, répondit le jeune homme, mais il y en a des milliers capables de le tenter, au service d'une bonne cause. Fit le marchand. Peut-être êtes-vous vous-même un de ceux-là. Je rougirais de me vanter quand il n'y a aucun danger à courir, répondit le jeune Durward. Mais mon père a accompli un exploit aussi téméraire, et c'est son sang qui coule dans mes veines. Bon, dit son compagnon en souriant. Mais dans ce cas-là, vous trouveriez à qui parler, car ce sont les archers de la garde écossaise du roi Louis qui sont en sentinelle sur ses remparts. 300 gentilshommes, le sang le plus noble de votre pays. À la place du roi Louis, répliqua le jeune homme, je m'en reposerai du soin de ma sûreté sur ces 300 gentilshommes écossais. J'abattrai mes remparts pour en combler mes fossés. J'appellerai à moi mes nobles pères et mes paladins, et je vivrai comme il convient à un grand roi, au milieu des fêtes et des tournois, me réjouissant le jour avec les nobles, dansant la nuit avec les dames, me souciant aussi peu de mes ennemis que d'un essaim de mouches. Son compagnon se contenta de sourire. Puis, tournant le dos au château, il conduisit le jeune homme par un sentier plus large et mieux battu que celui qu'ils avaient suivi pour venir. Ce sentier, lui dit-il, conduit tout droit au village du Plessis. Merci, mon bon maître, de ce renseignement, répondit l'Écossais. Je ne resterai pas longtemps au Plessis, le temps de manger un morceau et de boire un coup. Mais, objecta son compagnon, il me semblait que vous aviez quelqu'un à voir par ici. Oui, le propre frère de ma mère, répondit Durward. Comment s'appelle-t-il? Nous nous enquérons de lui, car il ne serait pas prudent de votre part d'aller au château. On pourrait vous prendre pour un espion. Par l'âme de mon père, s'écria le jeune homme. Moi, pris pour un espion? Par le ciel, Il sentirait bien vite le froid de l'acier, celui qui me ferait l'injure de me prendre pour un espion. Quant au nom de mon oncle, je puis le dire à tout venant. C'est Leslie. Leslie est un nom honorable et noble. Je n'en doute pas, dit le vieillard. Mais il y a trois Leslie dans la garde écossaise. Mon oncle s'appelle Ludovic Leslie. Sur les trois Leslie, objecta le vieux marchand, il y en a deux qui s'appellent Ludovic. On appelle mon parent le Balafré. Un honnête homme et bon soldat. Je ferai de mon mieux pour vous procurer une entrevue avec lui, car les archers de la garde écossaise sont soumis à une discipline très rigoureuse. Il leur est interdit de sortir du château, sauf le cas où ils ont à servir d'escorte au roi. Et maintenant, jeune homme, répondez à une seule question. Je parie que vous avez idée de prendre du service avec votre oncle dans la garde écossaise. C'est une visée ambitieuse, si tel est votre dessein. Car vous êtes bien jeune, et quelques années d'apprentissage sont nécessaires à celui qui aspire au grand honneur qui est l'objet de votre ambition. J'y ai peut-être pensé, répondit négligemment Durward. Mais si j'y ai pensé, je n'y pense plus. Comment cela, jeune homme? Dit le Français, non sans quelque sévérité. Pouvez-vous parler aussi légèrement d'une charge que se disputent les plus nobles parmi vos compatriotes? Grand bien leur fasse, répondit tranquillement Quentin. À part les nettes, j'aurais assez aimé le service du roi Louis. Mais on aurait beau m'habiller et me nourrir comme un prince, j'aime mieux vivre au grand air que d'être renfermé dans une cage. D'ailleurs, ajouta-t-il en baissant la voix, je n'aime pas un château où les chaînes portent des glands comme ceux que je vois d'ici. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, reprit le Français, mais parlez plus clairement. Pour parler plus clairement, à ce vieux chêne, devant le château, il y a un pendu. Ah, vraiment, dit le Français, pasque Dieu! Ce que c'est que d'avoir des yeux de 20 ans. Je voyais bien quelque chose, mais je croyais que c'était un corbeau. Mais cet objet n'a rien d'extraordinaire, jeune homme. Quand on vient l'automne, et que les nuits sont longues, et les routes peu sûres, vous pourriez voir à la clarté de la lune les glands de cette espèce pendus par bouquets de 10 et même de 20 à ce vieux chêne. Eh bien après, ce sont comme des bannières déployées pour faire peur aux coquins. Chaque fois qu'un honnête homme voit un drôle suspendu à ce chêne, il peut se dire qu'il y a un brigand de moins en France, ou un traître, ou un voleur de grand chemin, ou un oppresseur du peuple. Ce sont là, jeune homme, les marques de la justice de notre souverain. À la place du roi Louis, répliqua le jeune homme, je les pendrai un peu plus loin de mon château. Nous voilà, ce me semble, tout près du village. Conduisez-moi à l'hôtellerie. Mais avant d'accepter votre hospitalité, je désire savoir votre nom. On m'appelle Maître Pierre. Je suis un homme tout simple, et je vis de mon bien. Soit, Maître Pierre, dit Quentin, et je suis heureux que ma bonne chance nous ait mis face à face. J'ai besoin d'un bon avis, et vous n'aurez pas affaire à un ingrat en me le donnant. Pendant qu'il parlait ainsi, le clocher de l'église et un grand crucifix de bois qui s'élevait au-dessus des arbres montrèrent qu'ils étaient à l'entrée du village. Mais Maître Pierre, se détournant un peu de la grande route, dit à son compagnon que l'auberge où il voulait le conduire était un peu à l'écart, et que l'on n'y recevait que la bonne compagnie. Si vous entendez par là, répondit le jeune Écossais, les voyageurs qui ont la bourse bien garnie, je vous préviens que je n'en suis pas. Indiquez-moi donc quelque auberge plus modeste. Vous oubliez, Maître Quentin, puisque Quentin il y a, que je vous dois un déjeuner pour le plongeon que je vous ai laissé faire par mes gardes. Ce sera ma pénitence pour vous avoir fait du tort. Après quelques résistances, le jeune homme accepta. Au bout d'un sentier ombragé de grands ormes, ils entrèrent dans la cour d'une grande hôtellerie aménagée pour loger les nobles et ceux qui avaient affaire au roi. Car à moins de nécessité absolue, Louis XI n'accordait jamais à personne l'hospitalité au château. Sans appeler personne, sans s'approcher de l'entrée principale, Maître Pierre leva le loquet d'une porte de côté et introduisit son compagnon dans une grande pièce. Un fagot brûlait dans l'âtre, et un déjeuner substantiel était tout prêt sur la table. Le déjeuner était tout simplement admirable. On se figure quel effet il produisit sur l'appétit d'un jeune homme de 20 ans qui avait à peine mangé depuis 2 jours. Il se jeta d'abord sur un ragoût délicieux et attaqua ensuite avec énergie un certain pâté de périgueux, arrosant cette nourriture délicate et abondante d'un certain nombre de verres de vin de Beaune. L'hôtelier et maître Pierre s'émerveillaient de le voir revenir si souvent à la charge. La physionomie de maître Pierre exprimait une sorte de bonne humeur qui allait presque jusqu'à la bienveillance, en contraste complet avec son caractère habituel d'astuce, de causticité et de sévérité. Quentin, qui de son côté, sous l'influence du vin de Beaune, se reprocha d'avoir trouvé jusque-là peu d'attrait à la physionomie de son hôte. Il reprocha donc gentiment à maître Pierre de s'amuser à rire de son appétit au lieu de manger lui-même. « Je fais pénitence, dit maître Pierre, et je ne puis rien prendre avant midi, sinon un peu de confiture avec quelques gorgées d'eau. » Se tournant alors vers l'hôtelier, il lui dit « Priez la dame qui est là-haut de m'apporter de la confiture et de l'eau. » Pendant que l'hôtelier s'acquittait de sa commission, maître Pierre dit à Durward « Puisque ce petit festin vous a plu, sachez que les archers écossais en ont un pareil, sinon meilleur, tous les jours. Je n'en suis pas surpris, répondit Durward. Après avoir passé la nuit en sentinelle dans quelque échauguette, ils doivent avoir un furieux appétit le matin. Et puis, reprit maître Pierre, ils sont vêtus comme des comtes. Tant mieux pour eux, dit Durward. Et pourquoi ne voulez-vous pas servir parmi eux, jeune homme? Votre oncle pourrait, j'en suis sûr, vous faire mettre à la suite en attendant une vacance. Et, tout à fait entre nous, j'ai quelque petite influence, et je pourrais vous servir. Vous êtes, je suppose, aussi bon cavalier que bon archer. Ceux de notre race sont aussi bons cavaliers que quiconque a jamais posé sur l'étrier d'acier un pied bardé de fer. Et je ne vois pas pourquoi je n'accepterais pas votre offre obligeante. Mais voyez-vous, si la nourriture et l'habillement sont choses de première nécessité, dans la situation où je me trouve, on pense à l'honneur, à l'avancement et aux beaux faits d'armes. Votre roi Louis, que Dieu bénisse puisqu'il est un ami et un allié de l'Écosse, passe sa vie au fond de ce château, ne monte à cheval que pour aller d'une forteresse à une autre, et gagne des villes et des provinces par des ambassades politiques, au lieu de combattre bravement à visage découvert. Quant à moi, je suis comme les Douglas qui tenaient la campagne, préférant le chant de l'alouette au cri de la souris. Jeune homme, dit maître Pierre, ne portez pas des jugements si précipités sur les actes des souverains. Louis cherche à épargner le sang de ses sujets et ne songe pas à ménager le sien. Il a montré de la bravoure à la bataille de Montlhéry. Oui, mais il y a quelque 12 ans de cela, répondit le jeune homme. J'aimerais à suivre un maître qui tiendrait son honneur aussi net que son bouclier, et que l'on verrait toujours au plus fort de la mêlée. Pourquoi n'êtes-vous pas resté à Bruxelles, avec le duc de Bourgogne? C'est ma mauvaise chance qui m'en a empêché, répondit Quentin. Eh bien, il ne manque pas d'autres enragés, ajouta maître Pierre. Que dites-vous de Guillaume de la Marck? Quoi? S'écria Quentin. Servir l'homme à la barbe? Servir le sanglier des Ardennes, ce capitaine de pillards et de meurtriers, qui assassinerait un homme pour le prix de son juste corps, et qui tue les pèlerins et les prêtres, comme si c'était des lansquenets et des hommes d'armes, ce serait une tâche éternelle sur l'écusson de mon père. À ce compte-là, dit maître Pierre, et si vous êtes si sévère pour les princes et chefs d'État, vous n'avez qu'un parti à prendre, c'est de vous faire capitaine vous-même. Car où donc un homme si avisé trouvera-t-il un chef à sa guise? En ce moment, la porte s'ouvrit, et une jeune fille entra, jeune fille de 15 ans à peu près. Elle portait un plat recouvert de damas, sur lequel il y avait une petite soucoupe et une coupe. La soucoupe contenait des pruneaux, ces fameux pruneaux qui ont fait la réputation de la bonne ville de Tours. La coupe, d'une forme très élégante et curieusement ciselée, était l'œuvre d'un de ces orfèvres tourangeaux dont le talent surpassait celui de tous les autres artistes de France, y compris ceux de la métropole. La figure de la jeune fille était encadrée d'une profusion de longues tresses noires, sans autre ornement qu'une légère couronne de feuilles de lierre. Les traits étaient réguliers, les yeux noirs, avec une expression pensive qui faisait songer à celle de Melpomène. Seulement ses joues étaient légèrement colorées, et il y avait sur ses lèvres et dans le regard une vive intelligence. On devinait que la gaieté ne devait pas être étrangère à une physionomie aussi parlante, sans être toutefois l'expression habituelle. Même Quentin crut deviner que si une figure si jeune et si jolie avait une expression de gravité au-dessus de son âge, c'est que la jeune fille devait subir l'influence de quelque malheur. Et comme les jeunes gens ont l'imagination vive et sont prompts à tirer des conclusions des prémices les plus légères, il lui plut de se figurer que la destinée de cette douce vision devait être entourée de silence et de mystère. Eh bien, Jacqueline, dit maître Pierre, qu'est-ce que cela signifie? N'avais-je pas exprimé le désir que dame Perrette me servît elle-même? Pasque Dieu! Est-elle ou se croit-elle de trop bonne maison pour me servir? Ma parente est souffrante, répondit Jacqueline, qui parlait rapidement mais avec un ton d'humilité. Elle est souffrante et garde la chambre. Seule, j'espère, répliqua maître Pierre, avec quelque emphase. Je suis un vieux routier, et ce n'est pas moi qui accepterai comme excuse une feinte indisposition. Jacqueline pâlit et même chancela légèrement à cette réponse de maître Pierre, car il faut bien l'avouer, sa voix et sa physionomie, ordinairement dure, caustique et déplaisante, avaient quelque chose de sinistre et d'alarmant quand elles exprimaient la colère ou le soupçon. Chevaleresque comme un montagnard, Quentin d'Hurouard s'élança vers Jacqueline et lui prit le plateau des mains. Elle le laissa faire, tandis que ses regards timides et inquiets offraient la physionomie irritée du vieux bourgeois. Maître Pierre se radoucit. Je ne te blâme pas, Jacqueline, et tu es trop jeune pour être. Quelle pitié de penser que tu le deviendras un jour. Une créature fausse et perfide, comme le reste de ton sexe étourdi. Nul n'arrive à l'âge d'homme sans avoir eu l'occasion de découvrir ce que vous valez toutes. Voici un cavalier écossais qui te dira la même chose. Comme pour obéir à maître Pierre, Jacqueline regarda un instant le jeune étranger. Mais dans ce regard, si rapide qu'il eût été, Quentin d'Hurouard vit un appel à sa sympathie et à son appui. Avec la promptitude de la jeunesse et la vénération pour les dames que lui avait inspirée son éducation, il s'écria sans prendre le temps de réfléchir « Je jetterai le gant à tout antagonisme de mon rang et de mon âge, s'il osait soutenir qu'une physionomie comme celle de cette jeune fille pût être animée par d'autres sentiments que les sentiments les plus purs et les plus loyaux. » La jeune fille devint d'une pâleur mortelle et jeta un regard d'appréhension sur maître Pierre. Mais la bravade du jeune homme ne produisit d'autre effet sur lui que de le faire rire, d'un rire plutôt ironique qu'approbateur. Le second mouvement de Quentin valait toujours mieux que le premier, mais il ne se produisit qu'après coup. Il rougit des paroles qu'il venait de prononcer, car on pouvait y voir une vaine bravade en présence d'un homme âgé, de profession pacifique. Pour sa pénitence, il résolut d'endurer patiemment le ridicule qu'il avait encouru. Il offrit donc la coupe et le plateau à maître Pierre, les joues rouges de honte, ressentant une humiliation qu'il essaya de déguiser sous un sourire embarrassé. Vous êtes un jeune fou, lui dit maître Pierre, et vous ne connaissez pas mieux les femmes que les princes, dont Dieu, ajouta-t-il, en se signant avec dévotion, tient les cœurs dans sa droite. Peu après, il dit avec un sourire en caressant la tête de Jacqueline. « Ce jeune homme me servira, Jacqueline. Tu peux te retirer. Je dirai à ta parente que c'est une négligente et qu'elle a grand tort de t'exposer inutilement à attirer les regards. » « C'était seulement pour vous servir, » répondit la jeune fille. « J'espère que vous n'en voudrez pas à ma parente, puisque pasque Dieu, dit le marchand, en lui coupant la parole, mais sans aigreur. Avez-vous l'intention de me tenir tête, petite fille, ou bien demeurez-vous pour regarder ce jeune homme? Allez, il est noble, et je me contenterai de ses services. Jacqueline disparut. N'est-ce pas une belle créature? Dit le vieillard. N'est-elle pas trop charmante pour être servante d'auberge? Elle ferait honneur à la table d'un honnête bourgeois, mais elle est de basse extraction, et elle n'a reçu qu'une éducation grossière. Quentin fut déconcerté, et même disposé à se mettre en colère, sans savoir pourquoi, parce que le vieillard lui avait fait comprendre que cette belle créature était ce qu'elle semblait être, une servante d'auberge, quelque nièce de l'hôtelier sans doute, en somme, une domestique, obligée de se plier aux caprices des gens, surtout à ceux de Maître Pierre. Cependant, le marchand s'était plongé dans une profonde rêverie, dont il ne sortit que pour faire dévotement le signe de la croix et pour manger quelques pruneaux avec un morceau de biscuit. Il fit signe alors à Quentin de lui donner la coupe, ajoutant: Vous êtes noble, n'est-ce pas? Oui, certainement, répondit l'Écossais. Mais ne vous gênez pas pour cela, Maître Pierre. Je sais que c'est le devoir des jeunes gens d'aider les personnes âgées. Excellente maxime, dit le marchand. Ayant achevé sa coupe d'eau, il reprit. À voir le cas que vous faites du vin de Beaune, je ne vous crois pas disposé à me tenir tête avec ce breuvage primitif. Mais j'ai là un élixir capable de transmuer l'eau de roche en un vin délicieux. En prononçant ces paroles, il tira de son sein une grosse bourse en peau de phoque et en fit tomber dans le gobelet, qui était d'une taille respectable, une pluie de petites pièces d'argent qui le remplit plus d'à moitié. Vous avez plus de raisons que vous ne le supposez, jeune homme, reprit Maître Pierre, d'être reconnaissant à Saint-Quentin, votre patron, et à Saint-Julien qui protège les voyageurs. Je vous conseille de faire l'aumône en leur nom. Restez dans cette hôtellerie jusqu'à l'arrivée de votre parent, le Balafré, qui sera relevé de garde cet après-midi. Je lui ferai savoir qu'il pourra vous trouver ici, car j'ai affaire au château. Quentin d'Urvard cherchait en quels termes refuser les extravagantes largesses de son nouvel ami, mais Maître Pierre, fronçant ses noirs sourcils et redressant avec dignité sa taille voûtée, dit d'un ton d'autorité: Pas un mot, jeune homme, et faites ce que l'on vous commande. À ces mots, il sortit de la salle, faisant signe à Quentin de ne pas le suivre. Le jeune Écossais resta là, tout surpris, et ne sachant que penser de son aventure. Il fit ce qu'il avait de mieux à faire, et décida qu'il se conduirait d'après les avis de son oncle. En attendant, il appela l'hôtelier pour lui rendre le gobelet d'argent et pour le questionner sur le compte de ce marchand si libéral et si impérieux. L'hôtelier apparut aussitôt. Il refusa nettement de reprendre le gobelet d'argent. Ce gobelet n'était pas à lui, mais à Maître Pierre, qui en avait fait cadeau à son hôte. Et dites-moi, demanda le jeune Écossais, qu'est-ce que ce Maître Pierre qui fait de si riches cadeaux aux étrangers? Maître Pierre? Répéta l'hôte lentement. Oui, reprit Durvard d'un ton péremptoire. Qu'est-ce que Maître Pierre? Et qu'est-ce que c'est que cet homme à figure de boucher qui est venu commander le déjeuner? Eh bien, beau sire, pour ce qui regarde Maître Pierre, vous auriez dû lui adresser la question à lui-même. Quant à l'autre, Dieu vous préserve de faire avec lui plus intime connaissance. Il y a quelque chose de mystérieux dans tout cela, reprit le jeune Écossais. Ce Maître Pierre me dit qu'il est marchand. Du moment qu'il vous le dit, répondit l'hôtelier, c'est qu'il est marchand. Et la jeune personne qui est venue servir Maître Pierre, qui est-elle? Demanda Durward. C'est une personne qui loge ici, répondit l'hôtelier, avec une tante, ou tout au moins une parente. Est-ce votre habitude de faire servir vos hôtes les uns par les autres? Dit Durward. car j'ai remarqué que maître Pierre n'a rien voulu prendre de votre main, ni de celle de votre domestique. Les gens riches ont leur fantaisie, ayant de quoi les payer, repartit l'hôtelier. Ce n'est pas la première fois que maître Pierre se fait servir par des gens de haute naissance. Le jeune Écossais fut un peu mortifié de cette insinuation, mais dissimulant son ressentiment, il demanda s'il pourrait avoir un appartement à l'auberge pour un jour, peut-être plus. Certainement, répondit l'aubergiste, pour tout le temps qu'il vous conviendra. Lui serait-il permis de présenter ses hommages aux deux dames qui habitaient l'hôtellerie? L'hôtelier n'en savait rien. Elle ne sortait pas et ne recevait personne. Sauf maître Pierre, dit Durward. Je ne suis pas autorisé à répondre à des questions de ce genre, répliqua l'homme, d'un ton ferme, mais respectueux. Sans prolonger la discussion, Durward n'hésita pas à se prévaloir d'une coutume assez répandue à cette époque. Portez aux dames, dit-il, un flacon de Vernat, avec mes humbles devoirs, et dites-leur que Quentin Durward, de la maison de Glen Ullakin, un honorable cavalier écossais, de séjour en cette hôtellerie, désire obtenir la permission de leur présenter ses hommages, dans une entrevue personnelle. L'hôte s'éloigna et revint presque aussitôt avec les remerciements des dames. Elle refusait le rafraîchissement offert et, en envoyant l'expression de leur reconnaissance au cavalier écossais, exprimait le regret de ne pouvoir recevoir sa visite. Leur séjour dans l'auberge devait demeurer secret. Quentin se mordit la lèvre, se versa une coupe du Vernat que l'hôte avait rapporté et se dit « Par la messe, voilà un singulier pays où les marchands et les artisans prennent des manières et pratiquent une munificence de nobles, et où de petites demoiselles en voyage, qui tiennent leur cour dans un cabaret, font les prudes comme des princesses déguisées. Je la reverrai pourtant, cette jeune fille aux noirs sourcils, ou bien cela se passera mal. » Ayant formé cette prudente résolution, il demanda qu'on le conduisît à son appartement. Précédé de l'hôtelier, il monta un escalier et suivit une galerie sur laquelle s'ouvrait un grand nombre de portes, semblables à celles des cellules d'un couvent. L'hôtelier s'arrêta au bout de la galerie, choisit une clé dans un énorme trousseau suspendu à sa ceinture et introduisit le voyageur dans une tourelle. La chambre était petite, certainement, mais si tranquille et si bien en ordre qu'elle avait l'air d'un petit palais. J'espère que vous trouverez votre logis agréable, dit le maître de la maison. Je suis tenu de satisfaire les amis de maître Pierre. Heureux plongeon, s'écria Quentin Durward, en exécutant une cabriole après le départ de son hôte. Ensuite, il se dirigea vers la petite fenêtre. Comme la tourelle faisait une avancée considérable en dehors de l'alignement de la maison, la fenêtre avait une vue sur un joli, très joli jardin de quelque étendue, dépendant de l'auberge, et au-delà de la clôture sur un beau bois de mûrier. En détournant ses yeux de ces objets éloignés, et en regardant droit le long du mur, Quentin s'aperçut que sa tourelle faisait face à une autre tourelle, et sa petite fenêtre à une fenêtre semblable. Cette fenêtre entr'ouverte laissait apercevoir, suspendue à la paroi, un luth à demi recouvert d'un léger voile en soie vert de mer. Durward, soigneusement dissimulé, vit un joli bras, blanc et potelé, décrocher l'instrument. Presque aussitôt une voix de jeune fille se fit entendre, et chanta une de ces romances des temps passés, où les paroles n'ont ni assez de sens, d'esprit ou d'imagination pour détourner l'attention de la musique, et où la musique n'est pas d'un art assez parfait pour empêcher de saisir le sens des paroles. Quel que fût le mérite du morceau, Quentin en fut profondément ému, d'autant plus que la personne de la chanteuse était à peine visible, ce qui jetait sur toute la scène comme un voile de mystérieuse fascination. À la fin du morceau, Durward ne put s'empêcher de se montrer plus hardiment qu'il ne l'avait fait jusque-là. La musique cessa aussitôt. On ferma la fenêtre, et un rideau de couleur foncée, tiré à l'intérieur, coupa court aux observations du voisin. Durward fut à la fois mortifié et surpris du résultat de sa précipitation, mais il se consola en pensant que la dame aux luttes ne se priverait pas indéfiniment de sa distraction favorite, et serait bien forcée d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Comme il se livrait à ces sages réflexions, on vint l'avertir qu'un cavalier désirait lui parler, en bas.